Nous allons parler aujourd'hui de la diaspora séfarade vers le Maghreb. Nous ne connaissons pas les dates précises de la sortie des Juifs d'Espagne, puisque le 30 mars 1492, le décret d'expulsion des rois catholiques leur donnait 3 mois pour se convertir ou quitter le pays, période pendant laquelle ils sortirent petit à petit. Abraham de Torutiel, qui avait 10 ans à l'époque, raconte dans ses chroniques « Entre Pessah et la Pentecôte, toutes les armées d'Israël sortirent d'Espagne. » Cette année-là, Pessah avait commencé le 2 avril et Shavuot le 31 mai. Mais il est presque certain qu'il y eut des retardataires parce que ça n'était pas facile de transformer ses biens en lettres de paiement ou les vendre en si peu de temps. Enfin, on pense que ceux qui avaient décidé de partir et n'étaient pas disposés à se convertir devaient avoir quitté le pays vers la fin juillet ou début août. Le Maroc fut, par sa proximité, le pays qui reçut le plus de réfugiés d'Espagne. D'après le livre de Torutiel, de 1510, ils arrivèrent par les ports d'Arzila, Tétouan, Badis, Larache et Salé. Mais Fès fut la ville qui attira le plus d'expulsés parce qu'elle avait une communauté juive très importante avec laquelle ils avaient maintenu des liens depuis toujours. Il faut se rappeler que Maïmonide était parti à Fès. Malgré toutes les difficultés et leur énorme souffrance, les expulsés s'organisèrent très vite en une communauté qu'ils appelèrent la communauté des expulsés de Castille ou Megorachim. C'est extraordinaire de voir l'énergie et la foi de ces chefs spirituels qui, malgré toutes ces vicissitudes, avaient promulgué déjà en 1494 la première takana que l'on peut traduire par « règle » ou « disposition » pour établir les règles du mariage et celles de la succession pour défendre les droits de la femme qui, ceci dit, était lamentable dans ces pays. La deuxième takana fut publiée en 1496 pour compléter la première et fut acceptée par les 4 communautés, celles de Castille, d'Aragon, de Grenade et du Portugal. On sait qu'au début du XVIe siècle, la communauté judéo-espagnole du Maroc s'était considérablement développée et en 1508, il y avait dans les quartiers juifs des maisons à étages décorées d'arabesques, des synagogues et des yeshivot. On sait aussi qu'à l'époque de la terrible famine, personne ne mourut de faim, car ils avaient prévu des réserves de blé, comme ils avaient toujours fait en Andalousie. Il est clair que grâce à leur niveau et leur capacité d'organisation, les Megorachim s'imposèrent aux Toshavim, c'était les Juifs qui étaient déjà là. Ceux-ci, dès 1545, adoptèrent les Takanot des Juifs de Castille. Les expulsés d'Espagne s'installèrent aussi à Meknès, Salé, Rabat. À Salé, la communauté fut très active. Ils voyageaient beaucoup et grâce à son port, ils établirent des relations commerciales avec le port de Livorno en Italie, Marseille, Rotterdam, Hambourg, Amsterdam et Londres. Ce sont aussi des villes où avaient émigré les Juifs d'Espagne et avec qui ils avaient gardé des contacts serrés. La culture des Juifs d'Espagne s'imposa donc et c'est ainsi que partout dans presque toutes les synagogues au Maroc, on annonçait les donations en reales ou duros de Castilla, par tradition. C'est encore comme ça aujourd'hui à Madrid. Il y eut une grande coopération à Safi entre les Portugais et la famille Benzimra, émigrée de Malaga au Portugal, puis de là à Safi. Benzimra était un chacham et un poète. Il était rabbin de Safi et quand les Portugais arrivèrent dans la ville, le roi Manuel accorda un statut favorable à la communauté juive. Avec le temps, les communautés séfarades se déplacèrent vers le nord, surtout à Tétouan, dont la communauté date de 1530. Il faut dire que la communauté de Tétouan représente pour le judaïsme marocain la même chose que Smyrne ou Salonique dans l'Orient méditerranéen ou que Amsterdam ou Londres dans l'Occident européen. C'était les patries de la diaspora d'Espagne. De là, ils passèrent aussi à Alcázar Quibir, Larache, Tanger, Casablanca, Ceuta, Melilla, Oran et Gibraltar. La vie culturelle fut florissante pendant les deux premiers siècles. Les cultures rabbiniques et kabbalistiques se développèrent, mais, comme en Orient, la déception du mouvement Shabbatai Tzvi provoqua un renfermement des communautés et par conséquence une décadence culturelle. La langue espagnole va aussi s'éloigner de ses origines, ce qui va produire un dialecte, le jaquetia, où l'on trouve une base d'espagnol, mais aussi de l'hébreu et de l'arabe. ce dialecte va disparaître peu à peu au profit de l'espagnol actuel et du français grâce à l'Alliance israélite universelle. La prospérité des Juifs de Mogador commença après la sortie des Portugais en 1765. À la création du port, sur les conseils de Samuel Sunbal, le sultan Mohamed Ben Abdellah demanda à quelques familles juives bien placées de désigner un membre de leur famille pour les représenter dans cette ville. De grands privilèges leur étaient promis. Ils devaient avoir déjà des relations commerciales avec l'étranger et des parents installés en Europe. Des 10 personnages choisis, 7 étaient des descendants de Megorachim. Abraham Sunbal et José Del Vante de Safi, Maimon Korkos et Salem Delmar de Marrakech, Moïsès Aboudaram de Tétouan, David Peña d'Agadir, Moïsès Anahori de Rabat. Le développement de la ville fut spectaculaire. La ville passa de 2000 habitants en 1770 à plus de 6000 en 1785, ce qui provoqua l'arrivée de beaucoup de commerçants du pays et de l'étranger. Il y eut aussi beaucoup d'émigration de Mogador vers l'Angleterre, et des villes comme Londres, Manchester, Liverpool, Portsmouth et Newcastle virent naître de grandes communautés séfarades. L'influence britannique à Mogador devint très importante. Après la bataille d'Alcazar-Quibir, Tanger devint une ville espagnole jusqu'en 1643. Puis elle redevint portugaise, puis anglaise, de 1661 jusqu'en 1684. Puis Moulay Ismaël la reconquit et les Juifs qui avaient été expulsés par les Anglais purent revenir. D'autres les suivirent et en 1772, lorsque les légations étrangères passèrent de Tétouan à Tanger pour des raisons économiques, beaucoup de Juifs de Tétouan les suivirent et c'est là que le vrai développement de Tanger commença. Les Juifs de Tanger furent les interprètes de ces consulats. Ils étaient la clé des relations commerciales avec l'Europe. Les séfarades de Tanger étaient souvent les consuls et les vice-consuls de ces pays. Les relations avec ce qui était alors appelé la Palestine, en particulier Safed ou Tzfad, Hébron et Jérusalem, étaient intenses et on recevait des émissaires des yeshivot. Et certains partirent étudier là-bas et parfois restaient pour mourir en terre d'Israël. Le protectorat hispano-français au Maroc, établi par les accords de Fès en 1912, a contribué énormément à intensifier les contacts des séfarades marocains avec l'Espagne et la France, ce qui a accéléré leur émancipation. Ceci se manifeste dans tous les domaines, la mentalité, l'éducation, les activités professionnelles et surtout la langue. Le Khaketia disparaît pratiquement et on ne l'entend parler que par les personnes âgées. Ces communautés sont aujourd'hui dispersées dans le monde, depuis le Venezuela en passant par l'Espagne, la France, le Canada, Israël et d'autres pays encore. Il n'en reste que quelques centaines qui vivent encore à Ceuta, Melilla, Tétouan ou Tanger. Eh oui, c'est ça être juif, être expulsé, puis s'adapter ailleurs, puis repartir encore, mais aimer la vie, les lieux, les gens, apprendre et se donner de tout son être pour s'améliorer et améliorer son entourage avec passion. C'est peut-être ça le monde d'aujourd'hui. Les mouvements de population augmentent tous les jours. Mais nous, les Juifs, on connaît ça depuis la destruction du premier temple en l'an -587, où le peuple d'Israël fut expulsé en captivité, fut envoyé en captivité à Babylone. Martine Lasry pour Radio Sepharad.
Salen para velar, que mandan los reyes que